France Info.
France Info. Depuis le début de cette Coupe du Monde, les amateurs de foot sont aux anges. Les matchs sont très disputés, avec beaucoup de buts marqués. Il y a des coups de théâtre dans les toutes dernières minutes des rencontres. Des équipes favorites ont été éliminées, ce qui relance le suspense. Bref, c'est une Coupe du Monde très réussie pour l'instant. Et le match de ce soir devrait séduire bien au-delà des supporters. Cette affiche, c'est évidemment France-Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde. Alors d'abord, au fil des victoires, évidemment, les supporters de l'équipe de France sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est classique. Et puis, cette confrontation France-Allemagne est entrée dans la légende depuis les mondiaux de 82 et 86 et l'élimination de la France à chaque fois en demi-finale, avec en plus en 82 la tragédie Batiston, le choc avec le goal allemand, l'évacuation sur une civière, bref, vous connaissez la suite. Donc ce soir, Allemands et Français vont suivre la rencontre avec attention et notamment dans le village landais de Vielle-Saint-Girons, où vous vous trouvez, Jérôme Jadot. Jérôme, de nombreux touristes allemands sont déjà là.
Oui, une présence allemande qu'on repère dès l'entrée du camping des Tourterelles à deux pas de la plage. Les combis Volkswagen défilent devant le petit panneau « Bienvenue » sous-titré « Willkommen ». Des Allemands confiants à l'image de Simon, surfeur venu d'Outre-Rhin. C'est marrant d'être ici pour ce match. Je suis curieux de voir si les Français auront la pêche. Mais je pense qu'au final, c'est nous qui allons gagner, c'est sûr. Une certaine assurance pour des supporters allemands qui ont déjà marqué des points ici lors des derniers matchs de leur équipe. Ils étaient très présents au bar du camping qui diffuse les rencontres. Alors côté français, on s'organise, Raphaël est saisonnier aux Tourterelles.
Il y a le chien à l'accueil qui vient de se faire maquiller en bleu, blanc, rouge. Donc, je ne sais pas si ça va partir avant quelques semaines, mais bon. On est en train de faire un gros groupe de soutien là pour justement que la France soit représentée. Et on va tous se ramener au bar déguisés. Comme on va pouvoir, et puis qu'on va essayer de mettre l'ambiance qu'il faut pour leur faire comprendre qu'on est chez nous et que cette Coupe du Monde, elle n'est pas chez eux, elle est au Brésil, elle est pour nous.
Avantage stratégique pour les Français, la maîtrise de la télécommande. Les précédentes rencontres étaient retransmises en allemand pour leur faire un peu plaisir. Ce soir, ce sera en français. Et puis, il y aura la maîtrise non moins stratégique de la pompe à bière, souligne Raphaël.
Oui, effectivement, très important. Des supporters français qui semblent avoir le plein soutien de la municipalité, Jérôme.
En tout cas, celui d'Ange Caramant, adjoint au maire, 30 ans de football amateur derrière lui, est prêt à aucune concession face aux Allemands ce soir, même s'il représente plus de 20% des touristes de sa commune.
Ce sont des touristes intéressants parce que ce sont des touristes qui consomment et notamment qui sont friands des produits régionaux. Ce sont nos hôtes, nous les respectons, mais il faut que la France gagne. Ça permettra de rétablir l'équilibre par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années.
Et ce à quoi fait référence Ange Caramant, c'est évidemment cette demi-finale du Mondial 82, perdue au tir au but par les Français face aux Allemands. Christian, qui a planté un drapeau bleu-blanc-rouge sur son mobilhome, s'en souvient comme si c'était hier.
On avait des casseroles, on tapait sur des casseroles et quand l'équipe de France menait 3-1, yeah, c'était bon, on avait gagné. Et puis il y a eu cette agression sur Batiston. Normalement, il aurait dû y avoir un carton rouge. Ils auraient joué à 10, les Allemands. Ça m'a mis un peu les larmes dans les yeux. Mais là, on va gagner. On va être champion du monde, là, sans problème.
Sans problème, ça, c'est pas sûr. Des cocoricos français et des torses bombés allemands, c'est comme ça dans toute la commune, Jérôme ?
Non, pas vraiment. Au camping naturiste, par exemple, on peut tomber sur une table où Heinz et Pierre prennent le café ensemble, nus comme des verres. Heinz, l'Allemand, la joue plutôt pragmatique.
Si l'équipe de France joue très bien... Et les Allemands, pas bon. J'espère que les Français vont gagner. Je ne suis pas très nationaliste.
Son épouse Etelka revêtira toutefois ce soir t-shirt et écharpe aux couleurs de la Mannschaft, rompant d'ailleurs exceptionnellement avec le naturisme. Dans ce camping, le match sera diffusé tout à l'heure sur écran géant dans une salle des fêtes.
Il y aura une ambiance très très, très particulière, mais bon, c'est les ambiances qu'on voit aussi parfois dans les stades, dans les tribunes, mais avec le côté très bon enfant, le côté quand même amical. Le naturisme, c'est aussi une grande famille qui se retrouve. Simplement une ambiance très chaude, mais rien à craindre, pas de débordement à craindre, non.
Pas de débordement, assure Claude, même si la pression monte.
Ça monte un peu en puissance dans les esprits, dans les cœurs. Moi, j'ai voulu faire un chèque de la main à un Allemand en disant « Vive la France !» parce que je voyais qu'il avait les écharpes allemandes. Et puis, il m'a répondu sèchement « Non !»
Ah, Jérôme, n'y a-t-il vraiment aucun endroit où l'on pourra regarder ce match en toute quiétude ?
Si, chez Gérard et Hildegarde habitent ici, à Vielle-Saint-Girons. Leur couple franco-allemand perdure depuis 45 ans et voilà comment ils vont procéder ce soir.
Ça sera très simple. Sur la table, il y aura une bouteille de vin français. Et il y aura une chope de bière allemande. Alors, chaque fois qu'il y aura un but, et j'espère qu'il y en aura, si c'est un but allemand, je boirai un coup de bière allemande. Si c'est un but français, ben je boirai un petit coup de vin français, voilà.
Voilà donc peut-être la solution pour dépassionner la rencontre qu'une bonne partie de Vielle-Saint-Girons attend avec de plus en plus d'impatience.
Merci Jérôme Jadot et nous vous retrouvons bien sûr dès 17h pour l'édition spéciale sur France Info. Nous recevons dans le studio de France Info l'historien Thomas Négaroff. Bonjour.
Bonjour.
Alors Thomas, cette affiche provoque beaucoup de passion footballistique, bon ça on peut le comprendre. Mais il faut dire aussi clairement et sans fausse pudeur, c'est aussi parce que nos deux pays ont connu deux guerres mondiales et que les sentiments, les souvenirs sont toujours là. Mais finalement, personne n'ose le dire clairement. Je vous propose d'écouter Bernard Lacombe, ancien attaquant français, qui le dit sans le dire.
Il y avait la défaite, mais il y avait plein d'autres choses autour de ce match. Bon, il y a eu l'agression de Schumacher déjà. Quand on rejoue l'Allemagne, on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé pour nous, notre génération. Ça a été une chose qui nous a beaucoup, beaucoup marqué. Et si vous aviez vu les supporters, l'agressivité qui était la leur, elle était même pas trop footballistique, elle était en ressassant des choses anciennes.
En ressassant des choses anciennes, c'est ce que dit Bernard Lacombe. Personne, finalement, n'ose le dire, Thomas.
Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de chape de plomb et il y a beaucoup d'émissions depuis quelques heures, quelques jours sur ce match de 82. Et on évoque l'animosité, on évoque la brutalité d'Harald Schumacher et des Allemands globalement. Mais effectivement, il y a comme un grand tabou autour de ce passif finalement franco-allemand. Peut-être moins la Première Guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il faut quand même se replacer dans le contexte. En 82, c'est il y a 32 ans. En 82, on est moins de 40 ans après la Seconde Guerre mondiale. Bernard Lacombe le rappelle. Ces gens-là, ces jeunes joueurs à l'époque, sont nés au début des années 50, fin des années 40 pour la plupart. Donc, c'est des gens qui ont grandi dans cette après-guerre avec des parents qui ont connu l'occupation. Et c'est encore des choses qui sont affleurantes. Et on ne va pas se mentir, aujourd'hui encore.
Qu'on entend des commentaires au lendemain de match qui n'aurait pas lieu d'être.
Ouais, c'est ça. C'est que effectivement, on a une rhétorique et quand on réécoute un peu ce qu'on disait à l'époque et ce qu'on dit encore aujourd'hui, d'Harald Schumacher, il y a la brutalité, la violence. Il y a en même temps en face des Français romantiques qui résistent. Vous voyez, les termes sont aussi intéressants. Et on a effectivement une forme d'analogie entre la guerre et le terrain de football, le sport étant peut-être le prolongement sur des formes différentes de la guerre. En tout cas, heureusement, de manière plus pacifique. Mais parfois, ça acquiert une dimension presque mythologique et qui a une résonance historique. Et vous avez raison, on n'ose pas dire qu'il y a cette histoire franco-allemande. Et encore plus, je crois, au début des années 80, où on est dans la construction européenne, où on est dans l'amitié franco-allemande qu'on essaye de mettre en avant.
Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, de ces demi-finales de 82 et de 86. Et on ne parle pas du match de 84, mais pour vous, il est au moins aussi important.
Alors, il est moins important d'un point de vue sportif, malheureusement, pour l'équipe de France, qui a perdu deux demi-finales de Coupe du Monde. Mais en 84, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'en avril 1984, pour être très précis, quelques mois, deux mois avant l'Euro, le championnat d'Europe des Nations qui est organisé en France, eh bien, il y a un match amical, classique, hein, pour préparer cet événement. Et on organise un match entre la France et l'Allemagne, pas n'importe où, à Strasbourg, qui est une ville symbole de l'amitié franco-allemande. Hein, les gens qui connaissent un peu Strasbourg savent, et même les autres, qu'on est à la frontière entre les deux pays, il y a le pont de Kiel, et on est en Allemagne de l'autre côté. C'est une ville symbole vraiment des relations franco-allemandes et on organise ce match qui symbole un peu de la réconciliation footballistique entre les deux, mais même au-delà, entre les deux peuples aussi. Et c'est un match intéressant d'ailleurs, puisque quand Harald Schumacher rentre sur la pelouse, il y a une bronca extraordinaire du stade de la Méno. On lui envoie dessus n'importe quoi, des fruits, on l'insulte et il ne bouge pas, il reste là. Et on raconte qu'à la fin du match, il a été tout de même applaudi aussi par son comportement pendant le match. Ça a permis peut-être certainement de réconcilier un peu les deux peuples, parce que les États étaient réconciliés. D'ailleurs, quelques mois plus tard, le 22 septembre, image très forte de l'amitié franco-allemande, on a François Mitterrand et Helmut Kohl main dans la main devant l'ossuaire de Douaumont, vous savez, à Verdun, qui est le symbole aussi de la Première Guerre mondiale et de la réconciliation franco-allemande. On voit qu'il y a vraiment une résonance permanente entre le sport et la politique.
C'est sans doute pas un hasard cette poignée de main. Il y a aussi qu'en 82, après le match, les États officiellement n'ont pas réagi. Aujourd'hui, les choses seraient sans doute différentes.
Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui, notamment entre deux pays qui sont alliés dans l'Union européenne, mais c'est vrai, quand on voit la réaction du président uruguayen, par exemple, après la morsure de Suarez, en parlant d'un scandale national, en évoquant la FIFA, etc., on est frappé par, effectivement, l'absence de réaction politique après le 8 juillet 1982. 1962, donc après la demi-finale perdue par la France à Séville ce jour-là, effectivement, les gouvernements français et allemands vraiment s'empêchent de réagir avant
c'était
le match.
Aussi, c'était pas tellement la culture aussi à cette époque-là. Hein. On était moins dans une société médiatique qu'aujourd'hui.
Oui, alors le mondial de 82 est tout de même un mondial très médiatisé, mais c'est vrai qu'il y avait moins d'interférences du politique dans le sport. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas ailleurs. Hein. On a tous peut-être en mémoire 78, la Coupe du Monde en Argentine, avec une Coupe du Monde vraiment instrumentalisée par le pouvoir politique. Et puis au-delà, les Jeux Olympiques de Berlin, enfin, c'est un classique que le sport soit instrumentalisé. Mais là, précisément, je crois aussi parce qu'on est entre Français et Allemands, parce qu'il y a, et on revient à votre première question, c'est ce tabou de la guerre, parce qu'on est en train de construire une Europe ensemble. Il faut savoir que le début des années 80 dans la construction européenne, c'est une période de relance de la construction avec Jacques Delors, et donc autour vraiment du couple franco-allemand, du couple Kohl-Mitterrand. Avant, il y avait eu Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing. Et je crois que vraiment, si on ne réagit pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Mais ça en dit aussi long sur le décalage entre des dirigeants qui souhaitent, parce qu'ils ont compris que c'est leur intérêt, de faire vivre le couple franco-allemand dans l'ensemble européen, mais des populations, et souvent il y a un décalage, qui restent tout de même traumatisées, marquées par l'histoire. Et ce soir, je suis désolé, mais je crois encore que dans les pubs, dans les bars français, on entendra des choses terribles qui remontent évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, même si évidemment les Allemands d'aujourd'hui ne sont évidemment pas du tout responsables, il faut le rappeler, de ce qui a pu se passer il y a 70 ans.
Effectivement, ça en dit long à l'historien que vous êtes sur le temps qu'il faut pour que le temps fasse son chemin, en fait, son effet.
Absolument, il y a effectivement un temps médiatique qui est court, il y a un temps politique qui est moyennement court, il y a un temps historique qui est souvent très long. Les mentalités, vous savez, la Première Guerre mondiale, elle puise aussi dans la guerre franco-prussienne de 1870, la Seconde Guerre mondiale dans les deux précédentes guerres. Il y a un passif très lourd entre ces deux pays. On a, et c'est la grandeur aussi des dirigeants européens d'après-guerre, d'avoir essayé de construire une Europe ensemble. Mais effectivement, c'est un combat de tous les jours, je crois, que de dire que les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas les héritiers des Allemands d'hier, que ce sont des gens différents. Et il y a d'ailleurs qu'à voir la composition d'équipe d'Allemagne ce soir. Il y a des gens qui viennent de Turquie, de plein de pays d'autres pays, qui montrent que l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas l'Allemagne d'hier. Et heureusement, et on espère ce soir que ce sera uniquement un beau match de football.
Et que le meilleur gagne. Merci beaucoup Thomas Snegaroff, édition spéciale donc évidemment ce soir à partir de 17h.